Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Les élèves ont repris le chemin de l'école à Nitouri, mais à Bounia, comme dans plusieurs territoires, la rentrée peine encore à prendre son rythme, en cause notamment des dispositifs de prévention contre Ebola jugés insuffisants. Nouvel élan pour la régie des voies fluviales. Une drague multifonction a été remise à l'entreprise publique, tandis qu'un partenariat avec le FOREC prévoit l'aménagement de plusieurs voies fluviales dans le sud Ubangi et l'espace Kasai. Le projet Bomoya Mama Namwana est officiellement lancé au Kasai oriental. Quels en sont les objectifs et les retombées attendues? Alain Akpadji, représentant de l'UNFPA en RDC, est notre invité. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. À Nitouri, la rentrée scolaire a effectivement démarré, mais la reprise reste timide dans la plupart des écoles de Bounia et de l'intérieur de la province. Si les établissements ont rouvert leurs portes, les dispositifs de prévention contre Ebola demeurent insuffisants au regard du nombre d'élèves. Les autorités scolaires assurent toutefois que ces mesures sont en cours de renforcement afin de limiter tout risque de contamination en milieu scolaire. Isaac Remoyope.
La rentrée scolaire n'a pas connu l'influence habituelle ces premiers jours à Bounia. Les rues sont restées relativement calmes. Dans plusieurs écoles, certaines salles de classe sont vides, tandis que d'autres accueillent moins d'une dizaine d'élèves. De nombreux parents hésitent à envoyer leurs enfants à l'école. Ils sont partagés entre la nécessité de poursuivre leur scolarité et la crainte d'une contamination à Ebola. Cette inquiétude est renforcée par l'insuffisance des dispositifs de prévention observés dans plusieurs établissements. Les autorités scolaires se veulent rassurantes. Elles indiquent que les équipements de protection sont progressivement renforcés. Elle précise également que les récréations sont suspendues afin de réduire les risques de propagation de la maladie. Alain Ouonda, préfet du complexe scolaire Shalom de Bounia.
Les mesures barrières ont été respectées, mais nous continuons à renforcer. Nous avons mis 2 élèves par banc et il n'y a pas une récréation. Pendant les cours, les enseignants ont des activités récréatives.
Au cours de cette première journée, les 2 premières heures des cours ont été consacrées à la sensibilisation. Élèves et parents venus accompagner leurs enfants ont reçu des explications sur les mesures de prévention contre Ebola, aussi bien à l'école qu'à la maison. John Biarwanga du complexe scolaire Elikia à Bounia.
Il y avait beaucoup d'inquiétudes. Nous avons pris toutes les dispositions utiles. Nous avons également appelé le médecin qui a sensibilisé les parents et même les enfants aux mesures barrières.
Dans les écoles maternelles, la fréquentation demeure particulièrement faible. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au nord Kivu, pendant ces temps, un important déplacement des populations est observé depuis le week-end dernier dans le village de Kalehe, situé dans le groupement Ikobo en territoire de Walikale. Une organisation locale Solidarité communautaire de lutte contre les tribalismes, Sokolut RDC, affirme avoir identifié plus de 375 ménages déplacés, parmi lesquels figurent plus de 800 enfants en âge scolaire. Une situation qui risque de perturber la rentrée scolaire dans cette partie de la province. Le détail avec Bernardine Diambo.
Selon des sources locales, ces déplacements massifs des populations est consécutif aux affrontements ayant opposé la semaine dernière les éléments de l'AFC-M23 aux combattants Wazalendo dans ces villages de Kale, en territoire de Walikale. Le bilan provisoire avancé par ces sources fait état de l'incendie quasi total du village. Plus de 500 maisons auraient été détruites. L'école primaire de Kale ainsi que les postes de santé du village ont également été incendiés. Plusieurs biens de valeur appartenant aux habitants auraient été détruits au cours de l'attaque. La Sokolut RDC indique avoir enregistré environ 375 ménages déplacés vers les localités de Bouleoussa, Roussamambo et Bukumbiroa. Parmi eux figurent plus de 800 enfants en âge scolaire qui risquent de manquer la rentrée scolaire effective ce 1er septembre 2026. La même structure souligne que les populations déplacées, déjà affectées par la crise humanitaire, demeurent privées de biens essentiels et vivent dans des conditions précaires.
Dans la province du Maniema, la délocalisation de l'école primaire Matunda continue de susciter des réactions à Ilunga Dambo dans le groupement Makunda en chefferie de Alouba, territoire de Kibombo. Le président du comité des parents de cet établissement, Kalonda Niembo Niekas, conteste cette décision qu'il attribue au directeur de l'école, Selemani Lubobo. Selon lui, l'établissement a été déplacé de son site d'implantation et de mécanisation situé à Ilunga Dambo au mépris des dispositions réglementaires en vigueur. Kalonda Niembo Niekas appelle ainsi les autorités éducatives et administratives compétentes à examiner ces dossiers et à prendre les dispositions nécessaires pour rétablir l'école à son emplacement initial. Il est joint par Florence Kizalunga.
Nous dénonçons la délocalisation de notre école Epe Matunda de la localité Ilunga Dambo, groupement Makunda, chefferie des Alouba, territoire de Kibombo, province de Maniema, par M. Selemani Lubobo Bwanga, directeur de la dite école. Ce n'est pas pour la première fois, il l'a déjà fait une fois de plus 2019-2020. L'école était amenée à Likere, de là il se verra chassé par le chef de groupement Chomba Likere. Cette fois-ci, il amène l'école à Dungwa, 50 km de chez nous. Chose drôle, le directeur est en train de le faire sous l'œil et oreille impuissant des autorités scolaires de Kibombo. C'est trop. Nous demandons la restitution de notre école dont l'arrêté est le cachet. Faute de quoi, nous allons saisir la justice pour obtenir la sanction de tout celui qui aurait trempé les doigts dans cette sauce. Car il se peut que M. Selemani constitue l'arbre qui cache la forêt.
À Kinshasa, la rentrée de classe s'est déroulée timidement dans plusieurs écoles de la capitale. Radio Kapi a fait ses constats après une ronde effectuée dans quelques établissements publics de la capitale. Dans les écoles visitées, les corps professoral et administratif étaient au complet dès ces premiers jours pour accueillir les écoliers. Au complexe scolaire Cardinal Echaou, une élève a encouragé ses camarades à venir suivre les cours plutôt que de prolonger les vacances. C'est un reportage de Blaise Ndongala Mayanda.
La rentrée des classes à Kinshasa est marquée par une reprise effective du calendrier scolaire, bien que la présence dans les établissements et sur les grands axes de la capitale reste progressive. Ces phénomènes, observés au début de chaque année scolaire, s'expliquent par une combinaison des facteurs économiques, logistiques et sociaux. Certains parents affirment avoir rencontré des difficultés pour acheter des fournitures scolaires de leurs enfants en raison de la crise sociale.
Certains parents n'ont pas pu acheter les fournitures scolaires pour leurs enfants à cause de la crise.
À l'école primaire Baoumbou 1, les enseignants étaient présents et ont entamé les premiers cours conformément au calendrier scolaire en vigueur, comme l'a indiqué l'un d'eux.
Le respect du calendrier est là. Il a été prévu que les enfants rentrent le 1er septembre, on voit les enfants parce que les enseignants, tout le monde est là. Nous sommes là, sauf que la rentrée est trop timide. Le matin, on a enregistré qu'une quinzaine d'élèves.
Une élève du collège catholique Cardinal Echou s'est réjoui d'avoir renoué avec les cours après des mois de vacances et encourage ses camarades à les rejoindre.
Non, mais il faut seulement venir parce qu'on ne sait jamais, parce que le cours qui commence au début, c'est vraiment plus important.
L'affluence est plus marquée dès ses premiers jours dans les écoles privées agréées que dans certaines écoles publiques où la reprise va certainement s'étaler sur la première semaine.
La régie des voies fluviales RVF renaît de ses cendres. Le gouvernement congolais a doté cette entreprise publique d'une drague multifonction destinée à renforcer le balisage du fleuve Congo et des autres rivières du pays. La RVF et les fonds de régulation économique FOREC ont signé un protocole d'accord portant sur un vaste projet d'aménagement des voies fluviales dans les bassins de production du Sud-Ubangi et de l'espace Kasaï. Plus de détails dans ce reportage de Blaise Ndongala Mayanda, rendu par Élisée Chikota.
La cérémonie de signature de ces documents s'est tenue au cabinet de travail du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba. Cet accord prévoit la réalisation des travaux de balisage, de dragage et d'élagage, appuyés par des études hydrologiques et hydrographiques. Ces interventions visent à sécuriser la navigation, à désenclaver les bassins de production et à renforcer la connectivité entre les différents territoires de la République démocratique du Congo. Le directeur général de la RVF, Daniel Waboshi, a souligné l'importance de l'acquisition de cette drague multifonction.
Le ministère des Travaux publics nous a doté d'une drague multifonction. Bien que nous en avons eu, il est encore insuffisant vu l'immensité de notre réseau hydrographique à couvrir.
pour la direction générale de la RVF. Ces protocoles constituent une avancée majeure dans la volonté du gouvernement de rendre les voies navigables plus sûres et plus opérationnelles. À travers ces partenariats, la RVF et les FOREC traduisent la volonté du gouvernement de sécuriser les voies navigables, de stimuler les échanges commerciaux et de faire du fleuve Congo un véritable levier de désenclavement et de développement économique du pays.
Mongala oublié, notre manioc, notre riz, notre arachide pourrissent à cause des routes. C'est le titre d'une tribune publiée par le politologue Rigen Emomo. Dans ce texte, il attire l'attention sur les difficultés auxquelles est confrontée la province de la Mongala, notamment en raison du mauvais état de la route nationale numéro 6 et de plusieurs routes de dessertes agricoles. Selon lui, cette situation complique l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation. Le manioc, le maïs, le riz, le haricot et d'autres récoltes peinent à quitter le village faute de moyens de transport et de routes praticables. Conséquence, poursuit-il, une partie de la production se détériore sur place, tandis que les prix des denrées alimentaires augmentent sur les marchés. On écoute Rigen et Momo, joint par Alain Irung.
Alissala, Abumba et Abungandanga, la vie quotidienne de nos compatriotes est devenue extrêmement difficile. Nos mamans, nos jeunes sont en train de manquer de tout. Les routes sont impraticables, les hôpitaux sont vétustes, les écoles sont mal équipées, l'aérodrome de Lissala est délabré et presque sans asphalte. Le chômage des jeunes a atteint un niveau inquiétant. L'accès à l'eau potable est insignifiant. Les services publics sont défaillants. L'électricité est quasi inexistante. Et dans la plupart des cas, on se pose la question si le gouvernement central nous a oubliés ou pas. Je suis à Lissala. Tout ce que je vis, c'est inadmissible. La province manque de tout. Comment peut-on imaginer une province comme la nôtre qui a plus de 58 km² n'a même pas un kilomètre de route asphaltée. C'est lamentable. Donc, j'ai vu de mes propres yeux la souffrance de nos compatriotes et je pense qu'il faut que je pousse ces cris d'alerte pour que le gouvernement central se saisisse de la situation et qu'une solution urgente soit trouvée.
La Fondation Bill Clinton pour la paix FBCP et la sous-commission permanente des droits civils et politiques de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH tire la sonnette d'alarme sur les détentions prolongées en République démocratique du Congo. Au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi à Kinshasa, ces deux structures ont notamment réclamé une preuve de vie du pasteur Daniel Ngoimou Londanyanga, dont le décès fait l'objet de rumeurs sur les réseaux sociaux. Le FBCP affirme ne disposer d'aucune notification officielle confirmant ou infirmant cette information. Elle demande donc aux autorités de préciser le lieu de détention du pasteur ainsi que son état physique, médical et juridique. On écoute Emmanuel Cole, président de la Fondation Bill Clinton pour la paix.
Comme l'affaire des droits de l'homme est une affaire de tout le monde, nous devons tout faire pour que les droits de l'homme soient respectés. C'est-à-dire que nous demandons la justice pour passer dans le Moulouna, partout où il se trouve, soit être défalé devant son juge naturel. Parce que les OPJ, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Les OPJ sont prêtés nécessairement devant la constitution qui est là. Et l'article 18 donne les procédures d'arrestation. Et les OPJ, les services de sécurité, soit militaires ou civils, sont prêtés nécessairement devant cette constitution. Personne au-dessus de la loi et personne au-dessus des... Article 12 de la Constitution prévoit que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ils sont à la même façon d'agir. Donc, en principe, les gens qui commis des arrestations arbitraires doivent être interpellés parce qu'on ne refuse pas d'arrêter. Il y a la loi qui est prévue pour qu'ils soient être jugés ou bien libellés. Mais si on ne respecte pas cette procédure-là, c'est devenu arbitraire. Donc, nous sommes en train de lutter contre les arbitraires.
La CNDH, par la voix de son commissaire chargé des questions civiles et politiques, Maître Jean-Richard Chibanda, assure que la situation fait l'objet d'un suivi particulier. Elle appelle au respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux de toute personne privée de liberté. Le monde de la culture est en deuil après le décès brutal du chanteur et pasteur congolais Carlito Lassa, de son vrai nom Charles Ndombassi, survenu le lundi 31 août 2026 à Cincinnati aux États-Unis à l'âge de 65 ans. Ancien musicien des tout-puissants hockey jazz de Franco Luambo Makiadi et de l'orchestre Shockstar, Lassa Carlito s'était entièrement consacré au ministère pastoral et au gospel depuis le début des années 2000. Au mois de juin dernier, il était l'invité de Kaki Akiewa dans le cadre de l'émission Grand Témoin. On écoute un extrait de Lassa Carlito proposé par Alain Irung Monshinge.
Je pense que comme j'ai souvent vu, le Seigneur disait à Élie, cache-toi, et puis après, présente-toi. Carlito, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais connu, mais la voix est connue. Et pendant un temps, Dieu voulait que ça soit comme ça. Et après, Dieu m'a caché pendant un temps. Il voulait maintenant que je me présente et que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Un homme très timide qui ne pouvait même pas se présenter devant les gens. Mais une voix et l'art qui était derrière me poussait à être avec les vieux parce que mon art n'avait pas d'âge. En fait, je chantais. Je ne pouvais pas vraiment affronter les gens, mais je faisais tout pour que je sois là parce que la voix a été réclamée.
Voilà.
Et donc, il faut amener aussi le corps avec cette voix. Donc, j'étais obligé d'être là. Donc, mon art faisait que j'étais ami de tous ces grands. Donc, quand on terminait, après, je dois fuir.
Voilà.
Actualité internationale.
Au Niger, journée calme, c'est lundi 31 août à Niamey, après un week-end marqué par des tirs. Ils ont commencé dans la nuit de vendredi à samedi et se sont poursuivis dans la journée de samedi. Des violents affrontements ont opposé des soldats mutins d'un côté à la garde présidentielle appuyée par les forces russes de l'Afrika Korps de l'autre. Depuis, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Le général Abdourahmane Tchiani, à la tête du CNCP, ne s'est pas exprimé publiquement. Les autorités parlent d'un mouvement d'humeur. Beaucoup de zones d'ombre persistent, notamment sur les raisons qui ont conduit à ces événements.
L'invité.
Notre invité est Alain Akpaji, représentant de UNFPA en RDC. Il s'exprime sur le projet Bomoi Yamamanamwana, qui signifie la vie de la mère et de l'enfant. Les activités de ce programme viennent d'être officiellement lancées en Bujima, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Quels sont les objectifs de ce projet? Quels changements entend-il apporter dans la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés? Alain Akpaji répond aux questions d'Esther Dalafina.
Bonjour, monsieur Alain Akpaji. Vous vous retrouvez aujourd'hui en Bujimaï. D'abord, quel est le but de la mission?
Non, très bien. Le but de la mission, c'est dans le cadre, disons, d'un partenariat innovant entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, représenté ici par le Conseil national de la couverture santé universel, et la Fondation Vodacom, qui est un partenaire privé, et le NPA, qui est un partenaire technique et financier, pour vraiment lutter efficacement contre les décès maternels. Il faut dire que la situation de la République démocratique du Congo, nous enregistrons malheureusement l'un des taux de décès maternels les plus élevés, 746 pour 100 000 naissances vivantes. Et nous savons que, bien évidemment, il y a des causes profondes liées au manque d'accès à la planification familiale pour les femmes, les grossesses précoces, pour les adolescentes, les mariages forcés, tel que ça a été dit. Mais le phénomène fondamental que nous voulons vraiment attaquer ensemble, c'est vraiment les capacités de nos maternités et de nos hôpitaux à assurer la prise en charge des grossesses dans toutes les conditions respectant vraiment les normes. Donc à cet effet, nous avons construit ce partenariat tripartite. Le Conseil national de la couverture santé universelle, sous le leadership du gouvernement, n'est-ce pas, qui fixe le cadre, qui crée l'environnement dans le cadre des réformes structurantes, dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la lutte contre les décès maternels et la gratuité de la maternité, surtout, vraiment qui est une opportunité unique que nous devons tous saisir pour vraiment éradiquer les décès maternels évitables. Deuxièmement, nous avons la Fondation Vodacom qui intervient vraiment dans le cadre de l'innovation technologique, dans le cadre de transformation des infrastructures sanitaires pour que ensemble nous puissions. Et l'UNEPIE, conformément à notre rôle en matière de santé sexuelle et de la reproduction, agent de l'IDE des Nations Unies sur les questions de santé sexuelle et de la reproduction. Donc notre travail consiste à renforcer les capacités des prestataires sur la prise en charge des urgences obstétricales, il s'agit des sages-femmes surtout, de tous les prestataires, de les former également sur les questions d'hygiène et également vraiment de les former sur la prise en charge des fissures obstétricales. Donc voilà globalement l'objet de notre visite. l'UNEPI a procédé dans le cadre du lancement de ce projet dans lequel Vodacom va financer la réfection des maternités. Et nous avons procédé à la dotation des équipements, des lits d'accouchement, des tables de chirurgicales, etc. pour un montant de $84 000 pour soutenir vraiment cette mission.
Dans le cadre de la prise en charge des fistules obstétricales, UNFPA a appuyé la clinique de l'hôpital presbytérien ici à Mbujimayi. Actuellement, la capacité d'accueil ne convient pas par rapport au nombre de malades et les campagnes même que UNFPA organisait à l'époque ne se font plus maintenant. La dernière campagne a pris fin le 30 août du mois passé. Alors, qu'est-ce que l'UNFPA compte faire? Parce qu'il y a encore beaucoup de cas de fistules qui nécessitent réparation.
C'est ça. Oui, très bien. Je pense que c'est justement l'objectif de notre présence ici, de continuer vraiment ce renforcement des capacités, des structures de soins, des prestataires sur la prise en charge des fistules obstétricales. Deuxièmement, continuer à disponibiliser les intrants, n'est-ce pas, les kits fistules que nous disposons. Troisièmement, continuer à sensibiliser vraiment les communautés, à renforcer l'engagement communautaire pour que les grossesses précoces et les mariages forcés puissent être vraiment éradiqués, parce que ce sont des phénomènes qui constituent les causes profondes des fistules obstétricales. À travers ce partenariat avec le gouvernement, le Conseil national de la couverture santé universelle avec Vodacom, nous allons multiplier vraiment nos investissements dans ces provinces pour que les besoins en matière de réparation soient couverts.
La UNFPA n'a pas de bureau à Mbujimayi. Comment allez-vous faire pour être plus présent ici?
Bon, être présent ne veut pas nécessairement dire avoir des bureaux partout. Vous savez que nous avons des défis énormes maintenant en matière de disponibilité de ressources financières avec les coupures de fonds que nous rencontrons un peu partout. Donc, il faut vraiment s'adapter, il faut innover, il faut développer vraiment des approches de partenariat stratégiques dans un premier temps en s'appuyant sur le gouvernement.
Monsieur Alain Akpadji, merci.
Merci beaucoup.
C'était notre invité Alain Akpadji qui répondait aux questions d'Esther Ndalafina. Voilà qui met fin à cette édition du journal Parler de la mi-journée, coordonnée par Élisée Chikota, supervisée par Alain Irong Moshinj et mise en onde par Alain Goy. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.